Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Petit voyage vers le futur aujourd'hui. En Suède, on délaisse de plus en plus l'argent liquide. C'est avec son portable qu'on règle ses achats. Ils sont incontournables. Nouvelles icônes de la mode masculine, les hipsters. Toute leur panoplie est à redécouvrir dans Accent d'Europe aujourd'hui. Et puis, les pieds dans l'eau, on ira se relaxer dans l'île de Gozo, dans l'archipel maltais. Est-ce la mort annoncée de l'argent liquide ? En Suède, en tout cas, on paie de moins en moins avec des pièces et des billets, car le paiement en ligne ou via le téléphone portable se généralise. Le pays qui a été un des premiers pays européens à introduire l'usage des billets de banque au XVIIe siècle pourrait aussi être pionnier dans leur disparition. C'est le reportage à Stockholm de Benoît Derrier.
430 couronnes, s'il vous plaît. Non, nous n'acceptons pas les espèces, désolé.
Seulement les cartes bancaires ?
Oui, seulement les cartes bancaires.
Nous sommes au musée Abba, l'un des plus fréquentés de Suède. Ici, impossible de payer en espèces. À la caisse, c'est Tuli.
Quand j'ai commencé ici, je pensais qu'il allait falloir affronter des clients mécontents tous les jours. Mais en fait, pas du tout. Ça se passe très bien.
À l'origine de cette décision, Björn Ulveus, l'un des quatre ex-membres d'Abba. Sur le site du musée, il explique que c'est suite au cambriolage de l'appartement de son fils à Stockholm qu'il a pris conscience que l'argent liquide nourrissait la criminalité. Le directeur du musée, Mathias Hansson.
La disparition de l'argent liquide pourrait faire baisser la criminalité de façon drastique dans la société. Et puis cela contribue à créer un climat plus sûr ici pour nos employés, puisqu'ils ne manipulent plus d'argent. Plus besoin non plus de faire collecter la caisse tous les soirs par une société de transport de fonds, ce qui est toujours risqué.
Cela peut paraître paradoxal dans un lieu consacré à un groupe qui, déjà en 1976, chantait l'ivresse de l'argent. Mais à l'instar du musée Abba, de plus en plus de commerces et services suédois n'acceptent plus les espèces. Des salles de sport aux tickets de bus, tout passe par la carte à puce, voire le téléphone portable. Niklas Arvidsson, chercheur en économie à l'Institut Royal de Technologie de Stockholm.
On assiste à une tendance très nette. De plus en plus de commerces acceptent uniquement les transactions électroniques. Alors en partie pour se prémunir contre les braquages, mais aussi et surtout parce que les paiements électroniques sont bien plus rapides à traiter.
Le nombre de braquages de banques en Suède est en effet passé de 110 en 2008 au nombre anecdotique de 16 en 2011. Mais la cybercriminalité a, elle, été multipliée par 7 entre 2000 et 2011. Retirer de l'argent aux distributeurs en Suède serait donc un geste en voie de raréfaction. Et tout le monde ne voit pas cela d'un bon œil, les personnes âgées notamment, qui ne sont pas toujours familières des moyens de paiement électroniques. Märta Dahlbäck, médiatrice de la principale organisation de retraités en Suède.
Par exemple, il y a eu une expérience dans certaines gares. Les toilettes étaient devenues payantes, mais on ne pouvait régler que par SMS. Beaucoup de nos membres se sont plaints car certains ont de vieux modèles de téléphone qui ne permettent pas d'envoyer des SMS. Cela va trop vite, tout le monde n'arrive pas à suivre.
À l'avant-garde de cette mutation, il y a bien sûr les banques, pour qui le traitement des paiements en liquide est une perte de temps et d'argent.
Les banques prédisent une disparition de l'argent liquide à l'horizon 2030. Certaines d'entre elles ont déjà tout simplement arrêté de traiter les paiements en liquide. C'est effrayant car certaines personnes âgées ne parviennent tout simplement pas à mémoriser le code de leur carte bancaire. Elles doivent l'écrire quelque part, ce qui n'est pas très sûr.
Les transactions en monnaie sonnante et trébuchante représentent moins de 3% de l'économie suédoise. À titre de comparaison, ce chiffre est de 9% dans l'ensemble de la zone euro. Niklas Arvidsson, chercheur en économie.
Les consommateurs nordiques sont en général friands de nouvelles technologies. Ils ont adapté très vite les systèmes de paiements électroniques. Et puis, les banques permettent maintenant aux jeunes d'avoir une carte bancaire dès 13 ans, avec l'accord de leurs parents, bien sûr. Et donc, les consommateurs sont habitués très tôt à se passer de pièces et de billets.
Un principe que le directeur du musée Abba applique jusque chez lui.
L'argent de poche que je donne à mes enfants, c'est par virement bancaire et ils ne reçoivent jamais de liquide et ça se passe très bien.
La Suède introduira en 2015 de nouveaux billets de banque. Ce seront peut-être les derniers.
Vous les avez sans doute déjà croisés dans la rue. Les hipsters avec leurs pantalons un peu trop courts, moulants, très colorés et leurs pulls très ajustés. Les hipsters sont les adeptes d'une nouvelle contre-culture venue des États-Unis et qui a bien sûr trouvé aussi un terrain fertile à Londres. Mais en Grande-Bretagne, ils ne sont pas forcément bien vus. Trop arrogants, trop exigeants, un peu trop tout en fait. Décryptage du mouvement hipster avec Marie Billon à Londres.
Il n'en est pas spécialement fier, mais Henry Hall l'avoue lui-même, il répond au portrait type du hipster.
En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je porte un jean skinny et des chaussures en daim. Donc oui, je crois qu'on peut me mettre dans la catégorie hipster. Ça vient du cardigan, du pantalon, des chaussures. Je suis un grand fan de tricot. Mais si je suis un hipster, c'est surtout parce que je cherche toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire plaisir, que ce soit pour la nourriture, les boissons, les expériences. J'aime partir en recherche de ce qui est le plus intéressant, le plus artisanal. Et c'est clair, si je peux éviter, je ne m'habille pas en pantalon de jogging et grand t-shirt.
Henry est le manager du Brewdog à Shoreditch, dans l'est de Londres, l'un des bars recensés comme un hipster joint, autant dire un quartier général. La déco à l'ambiance industrielle avec de hauts tabourets en bois, les lumières tamisées et surtout les différentes craft beers, des bières originales provenant des brasseurs indépendants, tous les clichés sont réunis. Enfin, les clichés d'un certain type d'hipster, le vintage, celui qui a déjà un emploi et qui s'approche de la trentaine. Car il y a aussi le jeune hipster, le post-adolescent flamboyant. Voyant, celui-ci se sentira peut-être un peu moins chez lui, au Brewdog.
Nous avons une pancarte dehors, un panneau d'avertissement stipulant que tous les hipsters doivent être accompagnés par un adulte. On l'a depuis qu'on a ouvert et les gens trouvent ça drôle. C'est parce que certains hipsters sont un peu enfantins dans leur manière de s'habiller. À force de porter toutes ces couleurs, ils ressemblent au prince de Walt Disney. Mais c'est de l'autodérision parce qu'en étant à Shoreditch, on sait très bien que beaucoup de nos clients seront des hipsters et peut-être même nos employés.
Les hipsters flamboyants iront plutôt faire des emplettes dans des magasins comme le Cyberdog à Camden, une sorte de boîte de nuit boutique. En matière de vêtements, Henry préfère les fripes ou les magasins vintage. Pas seulement pour le style tout court, mais plutôt pour le style de vie qu'il suppose. Les Bach est professeur de sociologie à l'université de Goldsmiths.
It's a kind of affiliation with the underdog.
Être hipster, c'est se sentir comme un outsider, quelqu'un qui ne rentre pas dans le rang. C'est un peu une révolution culturelle ou une contre-culture urbaine. Être hipster, c'est comme être punk, sauf qu'on bricole tous les détails soi-même. Les jeunes savent que leur diplôme ne les aidera pas à trouver un travail, qu'ils vont devoir improviser, se forger eux-mêmes un avenir. Ce mouvement montre à quel point il est dur d'être jeune de nos jours.
Mais attention au contresens, le hipster n'est donc pas complètement révolutionnaire.
In a way, hipsters aren't necessarily rebelling against.
Dans un sens, les hipsters ne se rebellent pas vraiment contre la société de consommation ou le capitalisme. L'hipster vit du consumérisme pour développer son propre business, trouver une niche en ouvrant un salon de thé vintage, par exemple. Souvent, ce sont des entrepreneurs qui travaillent dans les nouvelles technologies ou la mode, dans l'économie culturelle de Londres.
Et c'est justement pour ce conformisme que les hipsters ne sont pas aimés de tous. Le Brewdog s'en moque gentiment avec son panneau, mais Will est un repenti. Il a toujours le style, mais il refuse catégoriquement qu'on le prenne pour un hipster.
Je trouve ça bizarre de prendre du temps pour faire croire qu'avoir l'air cool ne vous prend qu'une seconde. Parce que ça prend du temps de faire croire que son style n'est pas réfléchi. C'est contre-productif d'être un hipster ou de vouloir y ressembler. C'est une sous-culture qui bouffe votre temps.
Beaucoup de Londoniens les trouvent aussi pompeux et hautains, persuadés d'être les rois du monde. C'est aussi parce qu'ils sont majoritairement des jeunes aisés qui font semblant d'être fauchés. Henry du Brewdog est plutôt d'ailleurs d'accord avec cette idée.
Même à l'est de Londres, vous trouverez des gens pour se plaindre de l'influence que les hipsters ont eue sur le quartier. Ils ont fait fuir les gens qui sont nés ici parce que c'est devenu trop cher. Mais les hipsters n'avaient pas pour but de faire monter les prix. Ils sont allés à l'est parce que ce n'était pas cher. Et une fois arrivés, ils ont commencé à bouillonner d'idées pour améliorer leur quartier. Je pense qu'ils ont pu effectivement faire du mal à ceux qui vivaient et travaillaient là. Mais en même temps, ils ont fait tellement de bien à ces quartiers, ils leur ont donné une nouvelle vie.
Les blogs de hipster haters, les détesteurs d'hipsters fleurissent sur la toile. Il y a même un grand nombre d'hipsters repentis, comme Will, qui font leur mea culpa cybernétique. Mais selon Lesbach, c'est en partie parce que le phénomène hipster est encore en évolution. Il n'est pas encore assez vieux pour que les plus âgés se sentent ridicules avec leurs pantalons moulants et leur style prince charmant. Les hipsters dureront, c'est sûr, le temps d'une mode.
La poste finlandaise est plutôt habituée à une actualité ronronnante, mais tout a changé depuis qu'elle a dévoilé sa nouvelle collection de timbres, des timbres à l'esthétique homo-érotique qui vont faire grimper la température des boîtes aux lettres. Pauline Curté.
Un homme musclé, habillé en flic à la Village People, les fesses d'un autre, tout aussi bien entretenues en gros plan, un dernier, assis, nu, à la poitrine robuste. Voilà les derniers motifs imprimés sur les timbres postaux finlandais. C'est de l'art homo-érotique. Et si ces images se retrouvent dans la collection d'Itella, c'est parce qu'elles ont été dessinées par un artiste finlandais, Touko Laaksonen, alias Tom of Finland. Ce dernier, qui est décédé en 1991, s'est fait connaître aux États-Unis et dans le monde dans les années 70 pour ses dessins très crus d'hommes nus, parfois en plein acte sexuel. En Finlande, il est encore aujourd'hui considéré comme un artiste national, l'un des plus importants dans l'histoire du pays nordique. Ses timbres sont donc un hommage à l'art de Tom of Finland et non un manifeste pro-gay. D'ailleurs, Itella n'a pas retenu les images les plus choquantes de l'artiste pour ses produits. Il n'empêche, les philatélistes sont catégoriques. Qu'un service postal imprime des timbres homo-érotiques, c'est bien une première. Des Finlandais un brin taquin imaginent qu'ils pourraient s'en servir pour envoyer des lettres à la Russie voisine, qui a récemment voté des lois anti-homosexualité. D'autres prévoient déjà de conserver ces timbres pas comme les autres. Il faut patienter dans tous les cas jusqu'à leur mise en vente au mois de septembre. 200 000 exemplaires seront disponibles dans les bureaux de poste finlandais et sur Internet. Et que l'on se rassure, ces timbres sont auto-adhésifs, pas besoin de les lécher pour les coller sur son enveloppe.
On embarque pour une mini-croisière sur l'île de Gozo, petite île de l'archipel maltais située entre l'Italie et la Libye. Plus petite, plus fertile que l'île de Malte, Gozo vole des tours avec en prime un zeste de mythologie grecque. Alexis Rosenzweig a apprécié.
La légende dit que Gozo est l'île décrite par Homère, où Calypso a retenu Ulysse pendant 10 ans. Il existe même la grotte de Calypso sur une des hauteurs de l'île, qui surplombe une grande plage de sable, près des vignes et des orangers dont les fruits viennent d'être récoltés, sur des collines qui offrent au printemps toutes les nuances possibles de vert. Terre plus fertile que sa grande sœur Malte, Gozo permet aux Maltais et aux touristes de passage une belle échappée, loin des embouteillages qui peuvent parfois rendre pénible une sortie à quelques kilomètres de la Valette. Réputée pour ses temples mégalithiques de l'âge de bronze, on dit aussi que Gozo, la Rome antique, abritait les amours clandestines des chevaliers de l'ordre de Malte. Une vingtaine de minutes à peine sont nécessaires pour rejoindre en ferry Gozo depuis Malte, et pourtant, les 30 000 gozitains se sentent bien différents du reste de la population maltaise. D'ailleurs, et même si c'est assez difficile à vérifier par un étranger, tous les locaux vous le diront, les gozitains parlent maltais avec un accent différent. Et pour les visiteurs en quête d'encore davantage de calme et d'isolement, il restera la troisième île de l'archipel maltais, Comino et son lagon bleu, qui ne compte qu'un seul hôtel et moins de 10 habitants hors saison.
Il était une fois, il y a bien longtemps. dans un royaume enchanté, une petite ligne de base bien ronde.
Music. Et c'est Vincent Teval qui nous donne le la avec sa chronique musique.
C'est une chanson parfaitement de saison que je vous propose aujourd'hui. Elle est signée par le Norvégien Erland Hoy. On le connaît bien ce garçon puisque c'est la moitié du duo Kings of Convenience qui a publié 3 albums au fil de la décennie 2000 dans un registre folk, doux et mélodieux qui évoque souvent Simon et Garfunkel. Mais Erland Hoy a aussi enregistré des disques plus dansants sous le nom de Whitest Boy Alive. Et le dernier épisode en date dans la vie et la carrière du Norvégien est des plus surprenants et savoureux, puisqu'après avoir emménagé en 2012 en Sicile, à Syracuse, il s'est mis en tête d'enregistrer ses chansons en italien et d'épouser les codes d'une variété rétro et kitsch. Le résultat est tout simplement merveilleux.
Accent d'Europe, c'est aussi sur le site de RFI, rubrique émission, Accent d'Europe et sur Facebook. À demain.
Il palco è pronto per te.